toujours à l'écoute de RFI, il est 5h30 ici à Paris, la même heure à Luanda et à Kinshasa. Et c'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous.
Et cela commence par le choc entre le Rwanda et la Belgique.
Irrité par les sanctions, Kigali décide de rompre ses relations diplomatiques avec Bruxelles, qui riposte et annonce des mesures réciproques. La convocation du chargé d'affaires rwandais notamment, mais pas question qu'un diplomate ne réponde à ces convocations, affirme la diplomatie rwandaise, vous l'entendrez. On reviendra également sur la réunion de la SADC et de l'EAC hier au Zimbabwe et sur l'annulation des discussions inédites qui étaient attendues aujourd'hui entre le gouvernement de RDC et l'AFC M23. La guerre au Soudan et cette mise en garde du général Emmet Tee dans une vidéo. Il menace d'intensifier encore le conflit alors que l'armée revendique une nouvelle avancée à Khartoum. Les tensions et le risque de nouvelles guerres civiles au Soudan du Sud. Ensuite, la ville de Nassir dans la région du Haut-Nil à nouveau frappée par des bombardements. Et puis un tableau économique globalement peu reluisant, celui de Madagascar. Il ressort d'une analyse de la Banque Centrale Malgache. Après le journal, la suite de notre série de reportages exceptionnels sur la crise dans l'ouest anglophone du Cameroun, l'une des crises les plus négligées selon certains humanitaires. Un vignoble d'un genre particulier également au programme, le vignoble Assiami au Gabon, propriété de la famille Bongo qui tente de survivre après le coup d'état de 2023. Et les sports, bien sûr, au menu, comme tous les jours. Vous êtes tous les bienvenus sur la Radio du Monde. C'était dans les tuyaux et nous vous en parlions hier matin sur RFI, c'est donc fait. À Bruxelles, l'Union européenne a validé de nouvelles sanctions visant 9 responsables rwandais pour le soutien de Kigali apporté à l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Kigali, quelque peu agacé donc par les sanctions qui se multiplient. Le président Kagame les dénonçait d'ailleurs déjà lors d'un meeting dimanche. Et hier, en réaction, la diplomatie rwandaise a particulièrement visé la Belgique, moteur dans ses sanctions en Europe. Alors, après la suspension de la coopération bilatérale sur le développement en février, le Rwanda va plus loin et rompt désormais officiellement les relations diplomatiques, Lucie Mouillot.
La décision a été prise après une réflexion approfondie, affirme le gouvernement rwandais, liée, je cite, aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. Bruxelles est notamment perçue comme l'initiateur de mesures punitives contre Kigali, notamment au niveau européen. La rupture des relations avec la Belgique intervient d'ailleurs le jour de l'annonce par les 27 de sanctions contre plusieurs responsables rwandais. Les diplomates ont 48 heures pour quitter Kigali, une décision disproportionnée, a regretté le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, annonçant la convocation du chargé d'affaires rwandais à Bruxelles et de mesures similaires. Aucun de nos diplomates ne répondra à une convocation de l'État belge, a réagi son homologue Olivier Ndoun-Guirehe, représentant ce lundi le Rwanda à la réunion conjointe de la SADC et de l'EAC, une réunion qu'il a qualifiée de démonstration de solutions africaines aux problèmes africains, loin du bruit provenant de l'étranger. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et pendant ce temps, cette réunion hier à Harare, au Zimbabwe, où se sont retrouvés les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC. Les communautés d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, rencontre consacrée à la situation dans l'Est de la RDC, là aussi évidemment. Les représentants des diplomaties de chaque État membre ont passé au crible les recommandations établies précédemment par leurs chefs d'état-major respectifs. Pauline Azidi, que ressort-il de ce sommet finalement ?
Les ministres ont présenté une feuille de route complète, explique le chef de la diplomatie kényane qui présidait avec son homologue zimbabwéen cette réunion, et d'ajouter que des stratégies à court, moyen et long terme ont été mises en avant. À court terme, en 30 jours, la réunion demande aux parties de s'engager en faveur du cessez-le-feu et de cesser toute expansion du territoire. Elle recommande aussi le renforcement des mécanismes de vérification de la MONUSCO, la mission onusienne, et de la Conférence des Grands Lacs, la CIRGL, puis le déploiement d'une équipe d'experts, de militaires pour évaluer la situation sécuritaire. D'ici maximum 120 jours, les ministres demandent à l'ONU d'étendre le mandat de sa force pour sécuriser le nord et le sud Kivu, et à plus long terme, les chefs de la diplomatie prévoient le rétablissement de l'autorité du gouvernement congolais sur les zones actuellement occupées par le M23. Cette feuille de route n'est pas encore adoptée officiellement, il faudra un sommet conjoint au niveau des chefs d'État pour entériner ces mesures. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et ce sommet hier à Harare devait normalement précéder des discussions inédites annoncées pour aujourd'hui à Luanda entre le gouvernement de RDC et l'AFC M23. Les autorités congolaises, pour la première fois, avaient accepté ce dialogue direct. Mais la plateforme politico-militaire n'a finalement pas fait le déplacement, arguant avoir découvert l'information sur les réseaux sociaux d'une part et que la lettre d'invitation n'a pas été adressée à la bonne personne d'autre part. On décryptera ça ce matin, évidemment, dans nos prochaines éditions. RFI. Il a mis fin à une longue absence et un long silence au Soudan. Le général Emeti, le chef des paramilitaires des forces de soutien rapide engagées dans une guerre civile contre l'armée régulière depuis avril 2023. Et c'est dans une vidéo que le général Emeti a fait sa réapparition à l'heure où ses hommes ont accusé quelques revers sur le terrain. En habit traditionnel, sans treillis, sans grade militaire, elle lui menace d'intensifier encore la guerre et de l'élargir sur tous les fronts, Ouda Ibrahim.
Malgré les avancées de l'armée soudanaise, le général Mohamed Hamdan Daglo, alias Hameti, à la tête des forces de soutien rapide, jure que ses troupes ne se retireront pas de la capitale. Il menace d'élargir le front de guerre à l'état du Nil bleu et à l'est du Soudan, là où se situe actuellement la capitale administrative du pays, à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Il promet à ses troupes une proche victoire. Ses forces, affirme-t-il, sont déterminées et ne reculeront pas devant l'armée.
Si Dieu le veut, nous serons victorieux. La guerre dure depuis presque 2 ans et vous résistez toujours. L'armée a perdu entre 60 et 80% de ses aviations et nous allons nous débarrasser de cette bande au pouvoir. Nous n'allons pas les laisser ni à Chandi, ni à Adbara, ni à Marwa, ni à Daba, ni à Dandaro. Nous allons avancer vers les villes de l'Est. Nous ne laisserons pas notre peuple à l'Est du Soudan sous leur pouvoir. Vous allez voir la victoire. Inch'Allah, prochainement.
Selon plusieurs observateurs, ces menaces du général Daglo indiquent qu'il pourrait recevoir des armes nouvelles et sophistiquées qui pourraient faire entrer la guerre dans une nouvelle phase. Le chef de FSR a mis en garde par ailleurs le pays et dont l'armée soudanaise. Il a remercié le Kenya, je cite, un état démocratique exemplaire pour avoir accueilli la signature de la constitution de transition entre les FSR et leurs alliés soudanais.
Et sur le terrain, les forces de soutien rapide semblent quelque peu en recul, Ouda Ibrahim. Hier, l'armée du général Al-Bourhan a revendiqué une nouvelle avancée dans la capitale Khartoum, près du palais présidentiel, qui reste toutefois aux mains des FSR. Et dans la ville voisine d'Omdourman, des tirs d'artillerie imputés aux FSR, justement, ont fait au moins 10 morts. Bilan d'une source médicale auprès de l'agence France Presse. Les armes qui parlent à nouveau au Soudan du Sud, voisin également, avec ces bombardements aériens menée par l'armée sud-soudanaise dans la nuit de dimanche à lundi sur la ville de Nassir, dans la région du Haut-Nil. Des frappes ayant fait au moins 21 morts, selon les autorités locales. Près de la frontière éthiopienne, cette ville de Nassir est depuis mi-février le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée sud-soudanaise et une milice neuer, la White Army, réputée proche du vice-président Riek Machar. Lors d'une conférence de presse hier, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a également confirmé la présence de troupes ougandaises dans le pays. Florence Mietto, il l'avait dans un premier temps nié quand l'armée ougandaise l'avait évoqué la semaine dernière.
S'il a finalement confirmé la présence militaire ougandaise au Soudan du Sud, Michael Makwey n'est pas entré dans les détails.
L'armée ougandaise est actuellement présente à Djouba et au Soudan du Sud. En vertu d'un pacte militaire entre les gouvernements du Soudan du Sud et de l'Ouganda, pacte signé du temps de l'armée de résistance du Seigneur. C'est ce même pacte qui continue.
Datant de 2008, ce traité de coopération militaire a été remis au goût du jour pour justifier une présence très musclée de l'armée ougandaise sur le territoire sud-soudanais. L'heure semble bien à l'escalade et les images des victimes brûlées dans les bombardements nocturnes à Nassir sont insoutenables. Beaucoup d'internautes ont dénoncé des crimes. Mais pour Michael Makwey, aucun civil n'a été touché.
J'en appelle à tous les membres de la White Army qui se disent civils. Ils doivent rentrer chez eux, là où ils gardent leur bétail. Nous conseillons à la White Army de quitter Nassir maintenant. Notre aviation a bombardé Nassir ce matin. Les personnes vulnérables qui sont dans les zones hostiles, c'est leur problème. Vous êtes censé vous tenir à l'écart des zones hostiles afin que quand le bombardement a lieu, il touche les combattants. Mais si vous vous trouvez là au milieu, on ne peut rien y faire.
Des bombardements aériens ont également été rapportés par la presse locale dans le comté de Longotchouk, voisin de celui de Nassir, dans la nuit de dimanche à lundi. Florence Mietto, Djouba, RFI.
les signaux au rouge à nouveau à Madagascar. On parle économie à présent, car l'économie malgache restera en berne pour une année de plus. C'est en tout cas ce qui ressort de la note conjoncturelle de la Banque centrale malgache. En 40 pages, l'institution dresse un bilan peu réjouissant des performances de la Grande Île sur les 9 premiers mois de l'année passée, en 2024. Le déficit commercial a quasiment doublé en un an, les taux d'intérêt se sont envolés et les exigences fiscales sont de plus en plus oppressantes. Sara Teto, autant d'indicateurs qui ne poussent ni à l'investissement, ni à la confiance envers le marché malgache.
Après avoir chuté drastiquement au début des années 2020, la croissance de Madagascar s'est stabilisée à 4,2% en 2024. Une croissance principalement portée par les investissements privés.
C'est un taux très très faible et ça reflète également la mauvaise performance de notre économie dans son ensemble.
Docteur Eramirson est économiste.
Une autre donnée aussi dans cette note conjoncturelle, c'est le taux d'intérêt donc accordé par les banques aux entreprises. En moyenne donc c'est de l'ordre de 15,6%. Ça décourage les investissements, surtout dans le secteur secondaire. Autre indicateur peu positif, le déficit de la balance de paiement courant, c'est-à-dire un excédent des importations par rapport aux exportations. Si nous regardons les statistiques sur les 20 dernières années, on a constaté un déficit chronique de notre balance de paiement courant, ce qui induit la dépréciation chronique de la monnaie nationale.
Pour toutes ces raisons, les perspectives pour 2025 ne sont pas très optimistes, à moins de changer de cap rapidement et pour du long terme.
L'État doit encourager davantage les investissements par le secteur privé, parce que ce sont eux qui créent la richesse pour la nation. Comment ? Par exemple, en mettant à leur disposition des biens publics compétitifs comme les routes, l'énergie, l'électricité de la Tirama, et aussi en mettant un système fiscal plus incitatif.
D'autant que la conjoncture internationale avec la suspension de l'aide au développement américaine n'augure rien de bon. Dans un pays dépendant de l'aide extérieure, l'arrêt soudain de ces flux risque de créer un choc brutal dans les finances publiques, entraînant un effet domino dans le quotidien.